RMC. PLM et tous les compagnies, bon, PLM par-ci, PLM par-là. Oh, ça va. On a le droit d'exister un petit peu ou pas?
Le Super Football Show.
Très 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 compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison.
Jusqu'à minuit, c'est l'after foot.
Oh non, de Dieu, bordel de merde, que c'est bon! Bordel!
Arnaud Souk.
Bonsoir à tous, bienvenue dans l'after sur RMC et en simultané sur BFM Sport. Bonsoir Jonathan Macardy et bonsoir François Manardeau.
Bonsoir les amis.
Salut les gars.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Est-ce que
en pleine forme.
En pleine forme,
ça.
Vous.
Oh non, on va donner le change.
J'espère ne pas être contaminé, c'est tout.
On a vu on a vu un superbe match entre entre Nancy et l'Olympique Lyonnais, en tout cas un match plein de buts.
Et surtout t'es en vacances ce soir.
Et surtout je suis en vacances ce soir. Ça c'est vrai, mais faut pas trop le dire.
Et on a vu un super derby aussi à Séville.
Et on a vu un super derby effectivement à Séville. Justement, bah tiens, je voulais en parler dans mes trois points, ça sera dans un instant. L'important c'est les trois points de Jonathan, les trois points de François et mes trois points à moi. On va débriefer évidemment la rencontre du soir entre Nancy et l'Olympique Lyonnais, l'ensemble aussi des rencontres de ces 32e de finale de la Coupe de France. Et on parlera effectivement donc de foot européen. C'est parti pour l'after.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les trois points.
Plus souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Ah ouais.
Allez, qui veut commencer les trois points, Jonathan?
Allez, François, on y va. François.
Merci,
allez,
merci,
je t'en prie.
Jonathan. Vous vous souvenez de qui a dit le Paris Saint-Germain et Neymar ont fait pipi dans la piscine? C'était en septembre 2017. Javier Tebas, notre cher président de la Liga espagnole, qui avait eu évidemment beaucoup de mal à digérer, non sans avoir des mots à la limite de la vulgarité, voire complètement vulgaire, à digérer le transfert de Neymar, qui était une partie de la vitrine du football espagnol qui arrivait dans ce pauvre championnat de France. Et là, bah, tant mieux pour le Barça, ils viennent de faire signer Coutinho pour la modique somme de 160 millions d'euros. Donc Coutinho 160, Dembélé cet été c'était 145 qui vont au Barça. Alors là, il faudrait attendre quoi de la part de Tebas? Moi j'aimerais bien qu'il monte un petit peu au créneau pour savoir si le Barça fait caca dans la baignoire. Et je ne fais que paraphraser un tweetos qui m'a fait bien marrer à l'occasion du transfert de Coutinho. Mais voilà, j'aimerais bien aussi qu'un dirigeant tel que Tebas et aussi le courage de monter au créneau pour dire ce qu'il pense de l'arrivée
t'en beaucoup, là.
De Coutinho. Oui, non, mais c'est normal. Je les connais, les dirigeants dans le foot, et ça va que dans un sens, et ça me gonfle un petit peu.
Ouais. Deuxième surtout point, quand il s'agit de Javier Tebas, pour le coup.
On va rester en Espagne. On a vu, alors, vraiment, c'est un des derbys, sinon pour moi, le derby le plus chaud d'Espagne, le derby de Séville. Ouais. 5-3, on a vu un super match. On n'a pas vu des super défenses, c'est sûr, mais on a vu des buts égaux. C'était un match. Alors, ils s'aiment vraiment pas, ils se détestent même cela. Et on a vu un match plein de rebondissements et du spectacle. Et voilà, ça valait le coup d'être à Sanchez-Pizjuan où il y avait une ambiance du feu de Dieu, même si à la fin, ils étaient un petit peu avec la soupe à la grimace. Et je voyais les supporters du Betis, en revanche, complètement en délire. Et enfin, dernier point sur cette Coupe de France et ses 32e de finale où, une fois n'est pas coutume, mais là, l'hierarchie a été complètement respectée. Même si on avait un petit espoir pour Nancy à la fin. Ouais. Mais finalement, les gros se sont quasiment tous imposés.
Tes trois points, Jonathan.
Écoute, le premier point, c'est que Lyon était poussif, vraiment trop poussif. C'est un peu dans la continuité de ce que l'Olympique Lyonnais nous montre depuis les 5-6 derniers matchs avant la trêve. Dans le jeu, toutes les certitudes ont éclaté. Et j'espère que Genesio va remettre un peu dans la maison. Alors là, effectivement, c'est la reprise, c'est en janvier, c'est un match de coupe, ça veut pas dire grand-chose. Mais j'ai vraiment trouvé Lyon, le même Lyon qu'on avait laissé. C'est-à-dire un petit peu poussif, pas très convaincant, dans le jeu très lent, les transmissions vers l'avant. Pas tout assuré, beaucoup de joueurs qui portent beaucoup trop la balle, donc voilà, j'étais un peu déçu par Lyon. Le deuxième point, bah, c'est la Ligue 1 vide, parce que bon, tout le monde en fait tous, c'est vrai, nous les premiers, des caisses sur la magie de la Coupe de France, machin, mais les matchs de janvier, je suis désolé, moi je trouve ça dégueulasse. C'est dégueulasse, j'en ai rien à foutre de voir de Pontarbolo, Saint-Malo, je m'en moque.
C'est vrai qu'un Guingamp à Amiens me fait régulièrement rêver, Jonathan.
Non, mais faut arrêter,
c'est pas le seul.
Faut arrêter les faits de mode.
J'ai passé l'après-midi à m'engueuler avec des producteurs qui rentrent Thomas qui disaient.
Mais j'en ai vu plein des matchs de coupe François. Lesquelles? Mais en vrai, c'est que c'est chiant. C'est chiant les matchs de janvier, c'est chiant. Les terrains sont dégueulasses. Les tribunes sont vides parce que les gens ne viennent pas. Il fait froid, c'est déprimant.
Les tribunes de Marseille demain, effectivement.
Regarde demain à Marseille.
Oui,
c'est
effectivement,
déprimant.
Là, ça sera vide.
Faut arrêter de faire les hipsters du foot, c'est de la merde.
Je te garantis qu'avec ton alcool préféré, t'aurais un peu plus chaud.
Ouais.
Tu serais peut-être un peu plus détendu pour profiter d'un match de Coupe de France.
Le niveau est dégueulasse.
Le niveau est dégueulasse.
C'est toujours pareil.
Tu peux pas mépriser. Tout le monde nous l'envie. Tout le monde nous envie cette compétition.
Je ne méprise pas.
On en parlait avec Simone Rovira hier.
Je vais vous dire la vérité, je le méprise pas, mais le niveau technique est toujours dégueulasse, les matchs de janvier, ça veut jamais rien dire.
Avec des clubs de 8e division.
Moi ce que j'aimerais c'est OK, j'exagère quand je dis mais c'est juste qu'il y a une espèce oui, mais comme les gens exagèrent en disant que c'est formidable, non, c'est pas formidable, c'est chiant.
Mais c'est magique, c'est pas
toi,
chiant.
C'est ni formidable, c'est pas formidable et c'est pas
non plus. Tu trouves ça plus chiant qu'un samedi soir en Ligue 1?
Ah bah oui. Le niveau technique en Ligue 1 et le niveau tactique est quand même beaucoup plus élevé.
Non, mais tu trouves ça plus chiant objectivement qu'un samedi soir en Ligue 1?
La tactique et quand tu vas à un match de boxe, tiens, un sport que tu connais bien, un match de boxe, tu peux avoir un boxeur qui est moins fort techniquement qu'un autre, tu peux avoir un match qui est intéressant.
Ça n'est si t'es pas connaisseur, ouais, mais si t'es connaisseur, ouais, ça t'emmerde.
Ah, et connaisseur pour la boxe, je veux bien.
Et donc là, quand t'es connaisseur pour le foot, tu vois ça, bon, c'est bien, c'est mignon, mais c'est un peu chiant. Oui, bien sûr, il y a l'histoire. Tu mais faut dire la vérité, c'est que c'est un peu surfait. Et j'aimerais bien qu'on arrête à chaque fois de se gargariser en disant janvier, c'est formidable. Non,
on
janvier,
pas pour te faire chier.
Les matchs sont
on
un peu.
Pas
non,
pour
mais
te faire chier.
Qu'on soit d'accord, les matchs en janvier, on est content de revoir du foot, ça, il n'y a pas de souci. On est content de voir des petites équipes faire l'histoire, il y a toujours des histoires à raconter, c'est chouette. Mais en termes de football pur, on n'est pas servi. Il faut vraiment se l'avouer, quoi. Et le troisième point, c'est sur le Barça. Moi, j'ai pas m'arrêter au point Tebas, et effectivement, mais t'as raison. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Mais il faut juste, je réalise juste que le Barça, on avait crié, on avait alerté en disant oui, c'est la fin du grand Barça avec le départ de Neymar. Moi, je vois qu'avec leur entraîneur, c'est surtout ça la plus-value, la recrue, c'est Valverde. Avec leur super entraîneur qui a restructuré l'équipe en 4-4-2 comme il l'a fait après la blessure de Dembélé, c'est une équipe qui fait vraiment peur sur la scène européenne. Et là, en plus, avec Coutinho, avec le système, donc en 4-4-2, avec les deux meneurs de jeu excentrés, attention en Ligue des Champions.
Bon, j'enchaîne juste sur mes trois points que je partage plus ou moins avec vous. Moi, j'ai mis Lyon service minimum parce que moi, je considère que tu peux pas aujourd'hui te contenter de gagner à la 95e minute quand tu t'appelles l'Olympique Lyonnais, que tu sais que tu ne seras pas champion de France, que tu sais que tu veux des titres en fin de saison et que tu dois jouer cette Coupe de France avec le plus de sérieux possible, même si on a entendu l'entraîneur Bruno Genesio dire qu'il n'en faisait pas forcément un objectif, ce que je trouve d'ailleurs complètement surréaliste quand tu t'appelles l'Olympique Lyonnais aujourd'hui de pas de pas chercher à gagner.
C'est forcément qui est gênant.
Hein?
C'est le pas forcément qui est gênant.
Que c'est pas forcément l'objectif.
Soit tu dis que c'est pas un objectif, soit c'en est un. Mais
bah oui,
pas forcément.
Mais ça doit être.
Ça te met le cul entre deux chaises par rapport à tes joueurs et le message que tu leur fais.
Quand tu t'appelles Olympique Lyonnais, que tu as le prestige de l'Olympique Lyonnais et que tu sais que tu ne seras pas champion quoi qu'il arrive, tu te dois à minima, je pense, de mettre toutes les choses de ton côté pour aller remporter cette Coupe de France. Et on a eu le sentiment aujourd'hui sur le terrain, on va en parler plus en détail dans quelques minutes, que Lyon aurait pu tuer le match beaucoup plus tôt et finalement, voilà, c'est à laisser Nancy revenir et même passer devant alors qu'ils auraient eu l'occasion de tuer le match. Le deuxième point, je le disais, pas de surprise dans cette. Je crois que c'est toi qui disais ça, François aussi.
Il y a pas
les
de.
Voilà, les petits poussés se sont faits.
Il y a Grenoble qui est allé gagner face au Gazélec, mais bon, c'est pas.
Même s'il reste des matchs demain, il y aura notamment Steel, oui, le petit poussé qui va jouer face à Troyes. Il y aura Granville Bordeaux, mais c'est vrai qu'on est un petit peu.
Il y a du monde dans les stades, Jonathan. C'est pour la coupe machin qu'il y a personne.
Et puis le derby sévillon, t'en parlais aussi, 5-3, on a vu un super match de foot ce soir et j'étais vraiment ravi et notamment je tiens à tirer mon chapeau à Wissam Ben Yedder, l'ancien Toulousain qui a encore marqué
et Clément Langlais également,
Simon Kjaer
côté Betis.
Mais surtout Wissam Ben Yedder parce que moi j'aimerais beaucoup que ce joueur soit testé au moins une fois par Didier Deschamps. Ça n'engage que moi.
Ça n'arrivera pas. Malheureusement.
Il fait partie d'une liste relativement restreinte de joueurs.
S'il a pas pris à Marseille à un moment, c'est pas le profil de neuf que Deschamps aime.
Effectivement, mais en tout cas.
C'est triste, c'est malheureux.
En tout cas, j'aimerais pour le coup.
Non,
ça
mais il y a aucune chance.
Il y a toujours. Bref, il reste quoi deux matchs amicaux, je crois, avant que Didier Deschamps donne sa liste. Enfin, il y aura les deux matchs amicaux du printemps, et puis après il y aura la liste.
Je crois pas trop, mais jamais dire jamais.
On sait jamais. En tout cas, c'est un joueur qui marque souvent.
Tu connais ses goûts en termes de neuf. Il y a aucune chance.
Je connais aussi l'ouverture d'esprit du sélectionneur quand il s'agit des intérêts de l'équipe de France.
Bon, les résultats de ces 32e de finale de Coupe de France. Toulouse qui a battu Nice 1-0. Ça, c'était un match entre clubs de Ligue 1. La victoire de Châteauroux 2-1 face à Saint-Malo. Vous les découvrez sur BFM Sport, ces résultats. Victoire de Monaco 5-2 face à Iser. Caen qui a battu Hasbrook 2-0. Auxerre qui a battu Schiltigheim 5-1. Lille qui est allé gagner au Mans 4-2. Ça n'a pas été forcément évident. Et puis Montpellier qui a dû aller jusqu'au tir au but pour sortir Pontarlier, club de National 3, équivalent de 5e division. division.
C'était atroce.
Voilà, c'était pas forcément forcément évident. Débriefons, si vous le voulez bien, cette rencontre avec vous au 32-16 sur le hashtag RMC Live, cette rencontre entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Nancy-Lorraine, ou plutôt entre l'AS Nancy-Lorraine, club de Ligue 2, 16e de Ligue 2, et l'Olympique Lyonnais, club de Ligue 1. Victoire 3-2 donc des Lyonnais au bout du temps additionnel et ce but de Maxwell Cornet sur coup franc. Je disais service minimum, c'est vrai qu'on était en mesure d'attendre beaucoup mieux des Lyonnais, je veux dire. C'est même pas comme si tu jouais là, parce que là il y a pas de magie de la coupe dans ce match. C'est Nancy, c'est un club professionnel.
Non, il y a pas de magie de la coupe. Oui,
c'est un club professionnel. Normalement il y a justement une division d'écart et tu dois faire respecter la hiérarchie, je pense, non? Beaucoup plus que dans des cadres, dans le cadre de match où tu sais pas, où tu joues sur un terrain pourri. Là c'est pas le cas.
Tu sais le problème en fait, si j'ai fait mon laïus dans les trois points en disant que j'étais, enfin à chaque fois les premiers matchs de janvier, je trouvais que c'était vraiment pénible à voir. C'est parce qu'en fait c'est pas le format de la Coupe de France, c'est pas le fait qu'il y ait des clubs amateurs, c'est pas ça. C'est juste le moment où c'est placé. Là, c'est le premier match de l'année, c'est leur match après reprise. Ça veut jamais dire grand-chose, c'est toujours compliqué de tirer des enseignements. Là, ce que j'ai vu, c'est quand même que l'Olympique Lyonnais avait mis quasiment son équipe type, si ce n'est en pointe. Il y avait quand même, enfin, Morel, Marcelo, au milieu, c'était le milieu de terrain habituel. Sur les côtés, il y avait Cornet et Depay. C'est quelque chose qu'on voit quand même assez souvent en Ligue 1. Et ce que j'ai vu, c'est les mêmes.
On a revu Aouar jouer dans l'entrejeu, d'ailleurs, lui qui avait été un petit peu sur le côté.
Et ce que j'ai vu, c'est les mêmes difficultés. C'est le même Lyon poussif que j'ai vu sur les derniers matchs de Ligue 1. C'est-à-dire que tout se passe bien jusqu'à la ligne 2-3, Depay, Fekir, Cornet. Mais à partir de là, il y a un manque d'imagination qui est assez cruel. Il y a juste Fekir qui est capable d'organiser un petit peu les choses. Les deux joueurs sur le côté portent beaucoup trop le ballon. Et le problème de ce Lyon-là, j'en suis persuadé, c'est que c'est une très bonne équipe. Genesio est pas si mauvais que ce qu'on veut le croire, mais c'est quand même trop dépendant d'exploits individuels. Et le jeu collectif n'est pas assez huilé. Et dans ce genre de match où t'as un adversaire qui est plus faible que toi, où t'es censé t'imposer, où t'es censé donner la leçon, et ben tu vois, t'as pas de certitude dans le jeu. Et malheureusement, ça fait 6 matchs que ça dure. Les résultats ont suivi parce qu'il y a eu quand même pas mal de faits de jeu favorables. Mais j'espère que ça va être un petit peu la sonnette d'alarme et que ça va un peu s'arranger.
Mais c'est la différence entre la théorie, entre ce qu'on est en droit d'attendre et puis ce qu'on a comme résultat sur un match de reprise en janvier, sur un adversaire présupposé plus faible. Lyon a réagi ce soir. Alors que quand tu es présupposé dominer ton adversaire et la rencontre, c'est à toi d'imprimer le rythme et c'est à toi de dominer l'adversaire. Mais ça, c'est vrai, si c'était une science exacte à chaque fois le football et que ça se vérifierait. On vérifie en revanche souvent le contraire. Et là, Nancy a failli vraiment jouer un très mauvais tour à ce Lyon. Et puis quand ils ont un petit peu emballé la machine pour se remettre à l'endroit, là oui, j'ai trouvé que c'était un Lyon qui, même si c'est pas extraordinaire, parce que ça reste un match de 32e de coupe, parce que la motivation, alors, forcément c'est pas un objectif, là les joueurs ils l'ont bien compris, le forcément, ils se sont dit bon, ben, si c'est pas forcément un objectif, on va forcément pas super bien jouer ou jouer moyennement. Et puis ça a failli se retourner contre eux jusqu'à ce que peut-être ils aient un peu peur d'un coup de gueule du président Aulas en cas d'élimination. Et puis ils ont réagi et puis ça leur a souri.
Même s'ils ont obtenu un pénalty, on va dire généreux, les Nancyens.
C'est un fait de jeu.
C'était généreux, relativement généreux.
Mais bon, c'est un fait de jeu.
On va accueillir Dorian, supporter de l'Olympique Lyonnais qui a fait le 32-16. Salut Dorian. Allô Dorian.
Oui.
Salut.
Tu es dans l'after. Je te laisse la parole, Dorian. On débriefe la rencontre entre Nancy et l'Olympique Lyonnais. Satisfait de la qualification?
Oui, après le but, c'est la qualif, même si ça n'a pas été brillant, mais j'écoutais ce que vous disiez. Après, c'est vrai que le jeu de Lyon, il repose beaucoup sur des exploits individuels, sur Fekir, entre autres. Après, je pense que l'équipe, même si ça fait 4-5 mois qu'elle tourne ensemble, il y a eu quasiment plus de la moitié des joueurs qui ont été renouvelés si on regarde l'équipe type.
Ouais.
Donc il faut pas non plus trop exigeant pour l'instant. Ça tourne quand même pas trop mal globalement. Je pense qu'il faut attendre un petit peu quand il y a des équipes qui sont beaucoup moins modifiées, qui tournent beaucoup moins bien que nous après. Je pense que voilà.
Ah ça c'est sûr.
Après c'est un match de reprise et il faut un peu de temps.
Mais là, t'as dit le mot juste. En fait, tu vois, quand je fais mon laïus en disant que ce soir je me suis emmerdé, c'est pas contre la Coupe de France. La Coupe de France, tout le monde aime ça. Mais c'est juste le placement des matchs, le fait que dans le calendrier, et ça te donne à des performances qui sont indigentes. Et là, je suis désolé, autant Nancy que Lyon. Alors Nancy, je vais pas prétendre les avoir vus 36 fois cette année.
Mais tu veux
Lyon,
les mettre quand ces matchs? Il y a des mecs en Coupe de France. Il joue depuis le mois de juin.
Il y a quelque chose qui est simple. Moi, je préférais que le premier match de reprise, ce soit un match de Ligue 1. Hein. où il y a des points à jouer, où il y a le classement, où il y a de l'enjeu, je pense que les équipes prendraient le premier match un petit peu plus au sérieux. Ça voudrait peut-être dire que les équipes sont, tu vois, se préparent un petit peu plus sérieusement pendant la trêve et mettre le match de coupe, le mettre une ou deux semaines
mais
après.
Lyon s'est préparé très sérieusement, hein. Ils ont repris l'entraînement.
Mais tu sais bien
qu'en fin de semaine dernière, c'est pas le Paris Saint-Germain qui, pour le coup, a repris mercredi.
Entre ce qu'on préférerait ou ce que tu préférerais et après ce que le calendrier peut t'accorder, le problème entre guillemets c'est le calendrier aussi de la Coupe de la Ligue et que tu vas arriver en France dans un embouteillage terrible, encore plus fort pour ceux qui sont engagés en Coupe d'Europe, mais ne serait-ce que sur le plan domestique, entre le calendrier de la Ligue 1, de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue, où tu vas avoir des matchs qui vont vraiment se suivre quasiment toutes les semaines, voire tous les trois jours, pour le calendrier strictement domestique, tu peux pas caser la Coupe de France un peu plus tard.
J'ai regardé, c'est possible de faire commencer la Coupe de France un peu plus tôt. C'est possible de la faire commencer en décembre. Pour les clubs de Ligue 1, c'est totalement possible.
Ouais, enfin, je sais pas pour si les clubs de Ligue 1, il faut que tu décales toutes les autres divisions.
Le Paris Saint-Germain,
non, c'est une question d'une semaine en fait. J'ai regardé, c'est possible de le faire.
Raconte pas de conneries, Jonathan.
Bah, si,
le PSG, l'AS Monaco, ont joué 10 matchs en 30 jours.
C'est possible de mettre un match.
Raconte pas de bêtises. Ils ont joué 10 matchs en 30 jours.
Tu regardes, c'est possible. Alors oui, ça te fait. Mais comment ils font en Italie?
Ils ont joué les quarts de finale à Noël et la FA Cup, ça se joue ce week-end.
En Italie, c'est pas ça. En Italie, ça commence à Noël. Donc tu penses que tu peux le mettre.
Ce ne sont pas les mêmes formats.
Mais déjà,
je te garantis que la commission de la Coupe de France, les gens qui travaillent. Oh, je peux en placer une, s'il vous plaît, les gars. Donc les gens qui travaillent au calendrier de la Coupe de France, qui font ça depuis plusieurs années, le font en prenant en compte les desiderata des pros, des amateurs, et ils font ça dans le détail.
Je peux le mettre en décembre. Regardez le calendrier, vous verrez. Les gens qui font le calendrier sont capables de foutre la finale de la Coupe de la Ligue en avril.
On remercie d'avoir fait le 32-16. Anthony, supporter de l'Olympique Lyonnais, est également là. Messieurs, s'il vous plaît, on accueille Anthony. Salut Anthony.
Oui, bonsoir tout le monde.
Et bienvenue dans l'After.
Merci. Donc oui, après l'éternel débat du calendrier qui revient tous les ans à la même époque. Bon, moi, c'est pas spécialement ça que j'ai envie de retenir. C'est plutôt... Moi, ce qui m'a gêné ce soir dans le match de l'OL, c'est l'attitude des joueurs. C'est-à-dire qu'à 1-0, si vous regardez les images, on a une équipe qui se permet de faire des râteaux, de chambrer. Franchement, pas une belle attitude. Et derrière, bon, il y a le pénalty qui est un peu discutable, mais franchement, dans l'attitude, on n'y est pas. Et encore une fois, quand on joue une équipe supposée plus faible, et c'est ce que je dis à chaque fois, on n'est pas bon. Alors à chaque fois, il y a une excuse. Oui, c'est machin qui est absent. Oui, mais c'est la reprise de la trêve. Au bout d'un moment, les deux équipes, elles sont au même moment du calendrier. Elles ont les mêmes problématiques. On aligne notre équipe type du moment, puisque Mariano et Traoré ne jouent pas, mais ils sont blessés. Donc on aligne les 11 meilleurs disponibles à l'heure actuelle contre Nancy. Et franchement, on mérite pas grand-chose. On se qualifie. C'est pas loin d'être un miracle, quoi.
Service minimum, alors, quoi.
Service minimum, alors qu'en plus, Nancy, à 1-0, je me faisais la réflexion, je me disais, le pire, c'est, on va se qualifier alors que Nancy a même pas fait un match de coupe, ils nous sont pas rentrés dedans. Et je me suis dit, ouah, j'étais déçu, même de l'attitude des Nanciens. Donc on a eu un match vraiment moyen, on s'en sort. On retiendra que la qualif, mais pour le reste, dans le jeu et dans l'attitude, il n'y a pas grand-chose à retenir.
Est-ce que tu considères que, justement, ça doit être un objectif absolu pour l'Olympique Lyonnais cette saison, cette Coupe de France?
Absolu, ça va être posé très vite en fonction du résultat contre Villarreal. Parce que le résultat contre
Villarreal.
Ouais, en Europa League. Ils ont perdu Bakambu, donc c'est une bonne nouvelle pour nous. Enfin, va falloir voir par qui ils vont le remplacer. Mais si on se fait sortir contre Villarreal, clairement, il nous faudra un titre. Donc la Coupe de France deviendra.
Ils sont remplacés par Vieto.
Par Vieto, c'est
ouais.
fait.
Ouais.
Ouais, bah, donc du coup, ouais, c'est pas. Bon, c'est pas finalement pas une bonne nouvelle que ça.
Ouais.
Donc ouais, après la Coupe de France, un objectif principal, non, je pense que l'objectif principal reste de finir deuxième ou troisième pour se qualifier pour la Ligue des Champions et de faire un gros parcours en Europa League vu que la finale elle est chez nous.
Sur notre débat là qu'on avait avec Jonathan et François, qu'est-ce que t'en penses toi de cette Coupe de la Ligue? Est-ce que tu considères justement qu'elle doit être quand même un petit peu au-dessus de...
Ah, attends, j'ai dit quand même, Vieto a été à Valence, non, ils cherchent toujours, ils ont pas réussi à le faire. Mais non, ils ont pas de remplaçant. Ils ont pas de remplaçant.
Contre l'Atlético, ouais. Il me semblait que c'est ce que j'avais lu.
Donc sur cette Coupe de France, Anthony, est-ce que tu considères qu'elle est quand même un petit peu au-dessus d'autres enfin qu'elle apporte une part de magie, je sais pas, de rêve un petit peu dans ta saison footballistique ou pas?
Bah clairement oui, moi en tant que footballeur amateur en DHDHR, on a souvent l'occasion de jouer ces matchs-là, donc la Coupe de France c'est évidemment bien plus prestigieux que la Coupe de la Ligue. Moi si je dois choisir, si on me dit ton équipe tu préfères qu'elle gagne la Coupe de France ou la Coupe de la Ligue, même si la Coupe de la Ligue ça va beaucoup plus vite, il y a moins de matchs à jouer, une Coupe de France dans le tableau c'est quand même beaucoup plus sympa qu'une Coupe de la Ligue. Et moi que Lyon soit fait éliminer en Coupe de la Ligue contre Montpellier, sincèrement je m'en fous mais royalement.
Ouais.
Et non mais je suis honnête avec vous.
Anthony, le remplaçant de Bakambu apparemment c'est quelqu'un que tu dois bien connaître, c'est Roger Martinez qui devait rejoindre Lyon l'été dernier.
Ah, qui est celui qui devait venir à Lyon, voilà, et qui est parti en Chine. Ouais.
Et pour répondre pour le calendrier, je voulais juste vous en remettre en mémoire ce que j'ai regardé. Je peux très bien décaler ton match de Coupe de la Ligue en novembre. Tu vois, c'est le match de Coupe de la Ligue qui intervient au mois de décembre, tu le mets en novembre, ouais. Et tu mets ton match de Coupe de France au mois de décembre. Après, c'est vrai, ça demande une certaine coordination de l'organisation des deux compétitions, François. Ça, je te vois faire la moue, je te l'accorde. Mais il y a la place. T'as la place, logistiquement, sans pénaliser les clubs de division inférieure, de mettre ton premier match de Coupe de France au mois de décembre, et à partir de là, tu la revalorises, tu lui redonnes un peu de lustre quand même, que de mettre là, pauvre match de janvier, là, où
mais
tu sais pas comment le
caler. Tu considères, toi, que c'est un pauvre match de janvier, mais moi, j'ai jamais entendu ça,
c'est triste,
personnellement.
Moi, je trouve ça triste.
Après le côté vachement sympa de le mettre en janvier, et que parce qu'on sait qu'il est pro, on sait qu'à ce moment-là il reste quand même pas mal d'équipes amateurs généralement.
Bah oui.
Et le côté vachement sympa, c'est que du coup on sait que les pros après la trêve hivernale ils font généralement une grosse prépa physique, donc ils sont pas spécialement prêts. Parce que Lyon c'est ce qui s'est passé, l'équipe est partie à Valence, grosse prépa physique, et Genesio avait annoncé que physiquement il s'attendait à avoir un groupe un peu fatigué. Et ça permet justement d'avoir des surprises. Donc après c'est aussi le côté sympa de se dire ce premier match, on sait que n'importe qui peut éliminer n'importe qui. Et c'est ce qui en fait un peu l'intérêt, je trouve. Donc moi, c'est pas quelque chose. Le débat du calendrier, c'est pas un truc qui me choque spécialement.
Tiens, un petit mot, Anthony, sur l'Olympique Lyonnais, sur un sujet plus de fond, on va dire, autour de l'Olympique Lyonnais. Qu'est-ce que tu penses ce soir de l'absence de Mariano, parce qu'il est quand même très critiqué. Alors que pourtant souvent buteur. Là, on a vu quand même que ça.
Clairement.
Ça a changé certaines choses, en tout cas dans le réalisme lyonnais, même s'il y a eu 3 buts, effectivement. On a vu que dans le jeu, quand même, Mariano, il avait un petit peu manqué parfois, non? Je sais pas ce que t'en penses.
Moi, je suis franco-espagnol, donc je suis vachement la sélection espagnole. Et Mariano, je pense qu'il a vraiment une carte à jouer pour aller à la Coupe du Monde, parce qu'il y a Morata, Diego Costa qui vont y aller, normalement, et il y a un troisième avant-centre.
Ouais, mais Lopetegui l'a dit qu'il le regardait.
Et oui, non, mais depuis le début, depuis ses premiers matchs, je sais qu'à terme, il pourra aller en équipe nationale. Je ne pensais pas qu'il puisse y aller aussi vite. Mais franchement, aussi, il a un coup à jouer. Après, pour nous, à Lyon, ce soir, on voit clairement, Guiri, il a 17 ans, donc on ne peut pas lui jeter la pierre. C'est une pépite du centre de formation, mais il a 17 ans. Donc clairement, si demain, Mariano doit être absent 6-7 matchs, parce qu'il se claque, parce que quoi que ce soit, est clairement dépourvu. Et moi, dans le recrutement, j'ai entendu que Genesio, à un moment, il voulait un mieux terrain défensif. Mais un mieux terrain défensif, on n'en a pas besoin. On a Ferry qu'il faut garder. On a Diop qu'on a acheté 12 millions d'euros qu'on n'a toujours pas fait jouer. On a Touzard, on a Ndombele. Donc un mieux terrain défensif, on n'en a pas besoin. Ce qu'il faut, c'est un attaquant. Prendre un attaquant, mais un peu moins fort que Mariano, parce qu'il ne faut vraiment pas entraver sa progression. Donc moi, je pense que j'ai entendu parler de l'attaquant de Nîmes.
Il bougera pas cet hiver, laisse tomber. Il bougera pas cet hiver. Bozok.
Mais ça aurait été une bonne idée.
Bien sûr, mais il bougera pas s'hiver.
Et en plus, quand on l'a eu.
Je te le dis, il bougera pas s'hiver. En plus, on l'a eu quand il y a 15 jours et on lui demandait où est-ce qu'il désirait évoluer en Ligue 1. Il avait dit Lyon en plus.
Oui, ça, je m'en rappelle. Après, ça serait un joueur dans ce profil-là. Maintenant, après, honnêtement, il y a peu de chances que Lyon recrute un attaquant parce qu'on sait qu'Olas, il compte à 100% sur son centre de formation. Et recruter un deuxième attaquant, ça voudrait dire fermer la porte à Miziane et Guiri, qui sont deux joueurs sur lesquels le staff compte énormément. Donc, à mon avis, ça ne bougera pas de ce côté-là.
Merci, Anthony, d'avoir fait le 32-16, supporter de l'Olympique Lyonnais. Je suis obligé de te dire au revoir parce que Jean-Claude a également fait le 32-16. Salut, Jean-Claude.
Ouais, bonsoir tout le monde.
Supporter de l'OL, je crois que t'avais un petit coup de gueule à pousser, toi.
Ouais, parce que
fais gaffe, tu vas te faire engueuler.
Voilà, notamment, je viens d'écouter Jonathan là qui parle de Lyon, on est là parce que ils ont eu des faits de jeu. Je suis désolé, tu l'as dit. Alors moi, je viens de faire un petit tour là. Je sais que les réseaux sociaux, c'est pas toujours forcément ce qu'il faut regarder, mais je vois que les Lyonnais sont quand même sacrément furieux. Et à mon avis, ils ont raison. Il y a eu une campagne de presse on a eu un pénalty généreux contre Caen. Mais là, on se fait quand même une fois de plus, mais alors méchamment entubé par Gauthier, qui à chaque fois qu'il arbitre Lyon, à chaque fois il nous vole. Je sais pas si vous l'avez vraiment vu, le pénalty qu'il a sifflé là, sur ce contre Aouar. Le tacle, il est parfait. Je comprends pas là où il est placé qu'il puisse siffler pénalty. Donc moi, je dis, Anthony Gauthier, il est malhonnête avec Lyon. Et j'aimerais bien
Jean-Claude,
que la
presse... arrête de raconter des conneries. Non, non, il est pas malhonnête avec Lyon. Arrête. C'est pas flagrant. Je suis désolé. Non, Jean-Claude, tu dis des conneries. C'est pas flagrant. Tu vois, y a pas de quoi crier au scandale sur ce coup-là. Et de dire qu'un arbitre est malhonnête pour cette action-là dont tu parles, c'est ridicule.
Attends, désolé. Gauthier, c'est non, pas c'est ridicule. C'est pas déjà celui qui a fait retirer un pénalty contre Lyon, c'est pas le c'est, même.
Si tu commences à faire des listes sur les arbitres qui sont selon toi t'ont mis à l'envers, tu vas pas t'en sortir. Arrête un petit peu ça, c'est ton interprétation. Ouais, bon, moi sur l'action, attends, je te le dis, l'action, je vois très bien l'action dans laquelle dont tu veux parler. C'est litigieux, mais c'est pas, y a pas de scandale non plus. Mmh. Faut pas jouer à chaque fois ce petit jeu parce que c'est très pénible, c'est pénible Jean-Claude.
C'est pas non plus Ravanelli qui s'écroule dans la surface.
C'est pénible, en plus on passe pour un idiot en faisant ça.
Non mais c'est tout. Non mais vous passez jamais pour des idiots les médias.
Bah si,
non,
sûrement mais là Jean-Claude, à chaque fois que tu passes, tu sais, pour te plaindre de la des arbitres, c'est pour te plaindre du complot lyonnais. Bon. Arrête mon Jean-Claude. Arrête mon gars. T'as une belle équipe, t'as des jeunes. Enthousiasme-toi là-dessus, parle-nous du jeu, nous parle pas de ça.
Est-ce que t'es content au moins de la qualif, Jean-Claude?
C'est trop facile parce qu'à peu de choses près on passait pas. Donc je veux
allez,
dire
Jean-Claude. Bien sûr que ça okay. Merci Jean-Claude, supporter de l'Olympique Lyonnais, voilà, qui est toujours il pourrait au moins être content de la qualification.
Mais bien sûr,
on tient quand même à dire que ça n'est pas du tout à l'image des supporters de l'Olympique Lyonnais.
Le pénalty, il est discutable, c'est de l'interprétation, bref. Toi, tu vas dire que on peut siffler peut-être oui, peut-être non. Nous, on pense que c'est plus net. Maintenant, remettre en cause l'honnêteté d'un arbitre. De surcroît, il se trouve que je le connais, Anthony Gauthier. J'ai bossé avec lui et c'est un garçon d'une rigidité intellectuelle et du coup d'une honnêteté, il est mais insoupçonnable.
Qui a juste très, François, je trouve qu'il s'est juste trompé sur ce fait de jeu.
Comme tous les arbitres.
Mais oui,
mais
en France.
À partir du moment où c'est soumis à interprétation, il y a Gervais qui nous dit sur le hashtag RMC Live, s'il est malhonnête, il siffle même pas le coup franc à la dernière seconde.
Non, mais il faut arrêter avec ce délire de la persécution, même si vous êtes supporter acharné de votre club.
Allez, supporter lyonnais, supporter de tous les autres clubs qualifiés ou pas d'ailleurs, supporter toulousain, niçois, Manceau, Lillois, Montpellierin, Monégasque, vous faites le 32-16, vous réagissez sur le hashtag RMC Live, on va débriefer l'ensemble des rencontres de l'après-midi de ces 32e de finale de la Coupe de France. On marque une pause et l'after revient juste après sur RMC et en simultané sur BFM Sport, 23h22.
RMC, le super football show, l'after foot, Arnaud Souk.
Jusqu'à minuit, l'after sur RMC en simultané sur BFM Sport avec ce soir Jonathan Macardy et François Manardo, avec vous également au 32-16 et sur le hashtag RMC Live pour débriefer ensemble les résultats de ces 32e de finale de Coupe de France, compétition qu'en même temps, je vous rappelle quelques-uns des qualifiés, Caen par exemple, Les Herbiers, Guingamp, Canet-en-Roussillon, Colomiers, Monaco, Montpellier, Saint-Lô, Concarneau, Chambly, Auxerre, Grenoble, Lille, Tours, Châteauroux, Bourg-en-Bresse et Toulouse. Et tiens, on va débriefer en premier lieu le match entre Le Mans et Lille, qualif des Lillois. 4-2 après un match au MM Arena. Alors il y a plusieurs choses à dire sur ce match. À commencer que si cette Coupe de France ne te passionne pas, Jonathan, apparemment elle passionne au Mans.
Ah
puisque
bah oui.
21 000
j'ai toujours du mal à le dire. Celui-là. En vacances, monsieur Chouk.
Quasiment 22 000 personnes se sont rassemblées au MM Arena. 21 000 spectateurs, ce qui constitue tout simplement un record d'affluence pour un stade dans un match concernant un club de 4e division. Voilà, pour le club qui accueille, puisque Le Mans joue aujourd'hui en 4e division, même s'ils ont des infrastructures de Ligue 1.
Et Le Mans
c'est tout
éliminé.
De même un record. Le Mans est éliminé, c'est incliné donc 4-2 face à Lille. Mais Le Mans a dû regoûter aux joies de la Ligue 1 qu'ils ont pratiqué il y a quelques années avant de complètement tombé dans l'oubli. Et ça n'a pas été si évident que ça pour les Lillois.
Non. C'était un match de très faible niveau. Alors oui, il y avait de l'engouement, c'était bien, c'est un beau stade, c'est une belle, c'est une équipe qui est quand même un vécu récent en Ligue 1, qui a un beau vécu, mais ça rejoint ce que je disais, hein, ça va pas en conduire. Le niveau technique était vraiment pas terrible, terrible. C'est une équipe, le Lost, tu sens que l'entraîneur n'a pas encore su imposer sa patte. Je pense que Maignan est l'homme du match. À la dernière minute, temps, ça, ouais, part, ça, décharge, ça part en cacahuète. Hein. Ouais, non, mais bien
ça
sûr.
Ça décharge. Si tu donnes du temps à Mitroglou, je peux
ouais,
donner
mais
un peu
bien
à
Galtier. Sûr, j'ai hein. du temps à Galtier. D'accord. Mais bon, Maignan est l'homme okay. du match. Je pense que les deux équipes étaient vraiment. C'était vraiment très moyen des deux côtés. Au final, ça donne quand même un match qui est un petit peu spectaculaire, mais que dire? Franchement, que dire? C'est vrai que c'est bien parce que le stade est plein, que ça fait plaisir de
mais
voir
en fait,
ça se passer.
Ça n'a aucun intérêt si t'as pas un minimum de
non, il faut que le
nivellement
faut,
des valeurs.
Il faut que Jonathan, le niveau.
Non, mais dans ce cas-là, la Coupe de France, on fait comme en Italie. On fait que des clubs de première division.
Moi, je fais
que des clubs de deuxième division.
On va suivre.
Et les quelques clubs de troisième division qui sont.
C'est des
magots.
Mais c'est toi,
Jonathan. Mais Jonathan,
tu prends tes potes, tu fais une équipe. Je prends mes potes, je fais une équipe. Tu vas voir, on va faire un match, ça va être un peu sympa. Mais le niveau général est pas extraordinaire. Je suis désolé. Je pense que le positionnement dans le calendrier fait que le niveau général est pas extraordinaire.
Mais en fait, tu contestes l'essence même de la Coupe de France, c'est ça qui me gêne.
Mais
c'est
non.
Que là, si
mais
tu le contestes
niveau,
l'essence,
le niveau,
c'est quoi
l'essence
de la Coupe de France? C'est de quoi tu te souviens en Coupe de France? Honnêtement, c'est quoi le premier souvenir?
Je me souviens des belles affiches.
Oui, tu te souviens des belles affiches.
Souviens tout
alors vas-y,
cite-moi
une belle affiche en finale de Coupe de France qui t'a marqué.
Marseille-Sochaux, Paris-Marseille, Bordeaux-Monaco, Bordeaux-Paris. Je me souviens sur tout ça. Je me souviens des exploits, c'est vrai. On se souvient des exploits des petits poussés, etc. Mais les exploits des petits poussés.
Non, un minimum de bonne foi.
Demande-moi.
Tu me cites la finale entre Nantes et Calais. C'était un minimum de bonne foi.
Alors, c'est la finale entre Lyon et Calais. Ou intellectuellement t'es malhonnête, c'est qu'en fait là tu me parles de finale. Tu te rends compte des exploits des petits poussés à partir du moment où ça commence à passer
et
les
alors,
tours.
Si le petit poussé est en finale,
ou t'es en
c'est
quart,
qu'il a peut-être
ou t'es en demi,
fait jouer les clubs
mais
de Ligue 1,
je suis désolé, mais en 32e, mais
non,
c'est toujours dramatique. C'est toujours dramatique.
Dramatique sur le niveau technique.
Sur le niveau du foot. Mais tu t'attends du foot. On regarde du foot, on regarde pas du catch.
Mais le foot, il n'est pas que une vision stricte et rigide d'un niveau technique, Jonathan.
Tu regardes
le niveau du match.
Samedi soir en Ligue 1.
Le sport,
excuse-moi,
le
mais
sport,
souvent tu te fais plus chier.
Okay, le sport, okay. Attends, le sport, ça reste de l'émotion. L'émotion, il y a une partie technique parce que tu peux t'enflammer par rapport à un but. Comment il est inscrit individuellement
mais
ou collectivement.
Mais là, c'est mise, mais c'est après, mise France, hein.
Non, mais attends,
dans le monde
non,
et puis,
là, c'est toi qui fais de la
non.
démagogie, Jonathan.
Mais, Jonathan
honnêtement,
passé,
tu peux reconnaître.
Ton été à dire
tu peux
boxe,
reconnaître.
Mais aller, gagner,
ça
le
n'a rien à voir.
Si, ça
n'a
rien à voir.
Si, pour faire, si, ça. De toute façon, c'est ton problème. Mais. Ça n'est pas qu'une question de niveau technique. Qu'est-ce que tu peux attendre d'une équipe de national, de CFA, de CFA 2? Tu vas pas t'enflammer au niveau
équipe.
Technique.
Je vais dire ce que j'attends. Ce
non,
que
non,
j'attends.
Mais non, mais cette réponse, non, mais
réponds
à ma question, s'il te
bah
plaît.
Oui, bah oui, bien sûr. Je vais te dire ce que
qu'est-ce
j'attends.
Que tu peux
ce que j'attends, c'est j'attends que l'équipe en face prenne le match au sérieux.
L'équipe est censée être supérieure.
Oui, j'attends que l'équipe mais, prenne, prenne le match au sérieux.
Un beau
c'est
match,
tout simplement.
Techniquement.
J'attends que là, par exemple, Lyon, même s'il n'y a pas tant d'écart contre Nancy, j'attends que Lyon joue à son niveau.
Oui, mais là, c'est deux
j'attends
clubs
que
pro,
j'attends
pas,
que Monaco même s'il gagne 2-5, j'attends que Monaco joue à son niveau. C'est tout. J'attends rien de plus.
Je trouve un
allez,
peu,
Florian,
un peu méprisant sur le caractère émotionnel d'une compétition, que ce soit la Coupe de France.
On accueille Florian au 32-16. Salut Florian.
Salut les gars.
Supporter du LOSC.
Salut.
Bon, bonne année à toi. J'imagine qu'elle commence bien quand
salut
même.
Salut Florian.
Mieux qu'elle n'avait fini en tout cas.
Alors, elle commence bien, mais pour autant, on était dans l'obligation de gagner ce soir. Faut pas se le cacher non plus. On a joué face au Mans, équipe de National 2. On a fait le boulot, mais pour autant, sur le fond, c'est pas terrible non plus, quoi. On était, on aurait été face à un club de Ligue 1. Je suis pas sûr que le LOSC serait passé ce soir, quoi. Après, que dire de ce match? Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué. On voit encore un McManion qui sauve le LOSC quand même à multiples reprises hein, sur la seconde période. Quoi. C'est lui qui arrive à tenir le score et à la fin, on est sauvé par Mendes. Mais c'est vrai que là, pour le moment, on sent pas encore l'impact de Galtier.
Non.
Pas son tir tout de suite, c'est certain, parce que
bah,
il est arrivé il y a une semaine.
Florian, il avait dit qu'il voulait jouer en 4-4-2.
Ouais.
En interview, tu l'as vu le 4-4-2 là?
Non.
Voilà.
Ok, ok, merci.
Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça, François? Peut-être tu voulais t'exprimer toi sur cette rencontre entre cette qualification lilloise.
Je trouve qu'ils ont juste réussi à faire le travail et à assurer ce que leur les oblige à faire, c'est-à-dire obtenir une qualification face à une équipe. C'est combien? Trois divisions.
C'est National 2, donc il y a trois divisions d'écart.
Trois divisions d'écart. Voilà. Maintenant, on va attendre le tirage. Je pense que c'est demain soir. Une fois que les 32e seront passés, il faut espérer que Lille redresse la tête, mais il faut donner un peu de temps à ses joueurs plus qu'à leur entraîneur, parce que mon entraîneur, il a pas de baguette magique.
Juste, on va écouter le juste. Attends, je te redonne la parole dans un instant, Jonathan. On écoute d'abord le coach Galtier après cette qualification lilloise en 16e de finale.
Évidemment, on est satisfait. Je suis satisfait pour les joueurs qui sortent de stage de 8-10 jours où on a beaucoup travaillé. Je suis content pour eux qu'ils puissent rentrer à la maison avec une qualification. Mais je leur ai dit de suite après le match qu'on ne peut pas faire autant d'erreurs face à un adversaire de Ligue 1 parce qu'on sera lourdement sanctionné et qu'il faudra être plus consistant et plus constant dans la durée des matchs.
Voilà, Christophe Galtier, l'entraîneur stéphanois, j'allais dire. Bon, c'est la force de l'habitude, l'entraîneur lillois. Qualification des Lillois 4-2 face au Mans. Tu voulais rajouter très rapidement, Jonathan?
C'était extrêmement poussif, c'était pas très beau à voir, l'équipe était pas très mise en place, mais il y a juste une chose qui me laisse un petit peu d'espoir et qui me donne envie de voir Lille, le loss de Galtier, c'est le milieu de terrain. J'ai trouvé sur le papier séduisant, dans le match par séquence assez intéressant, Amadou, Maya Mendes, et on va voir comment ça se passe à la reprise, si Mendes n'est
il
pas
joue rendu. Qui à la reprise?
Je sais pas.
Je vais vous dire ça dans un instant. Ouais. Encore merci Florian d'avoir fait le 32-16 supporter du LOSC. Bah tiens, tu vois, moi le match que j'ai trouvé le plus chiant aujourd'hui, c'était Toulouse-Nice, figure-toi. Ah ouais. Et je dis ça en connaissance de cause, enfin en connaissance
c'est
de
parce
cause,
que t'es plus sévère parce que t'es
non,
t'es un petit
bah, j'ai assisté à un match.
Non mais moi aussi qui suis
appliqué,
mais c'était, de l'autre côté,
c'était un match chiant, ouais. Voilà. C'est QFD. Ouais, non, victoire toulousaine, qualification.
C'est QFD quoi? C'est que ça va dans mon sens là en disant ça.
Ah non, 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 ah bah non, si. Non, non, bah justement.
Oh, on va pas recommencer, non, c'est un peu chiant maintenant.
Ça veut dire que les deux équipes sont pas impliquées et que les deux équipes sont pas au niveau.
Non, voilà. Non, ça veut dire qu'on a assisté à un traditionnel affrontement entre clubs de Ligue 1 et que ça donnait un 1-0 tout pourri. Qualification des Toulousains face
voilà,
à Nice.
Voilà, bravo à vous les amis, vous l'avez mérité.
François, c'est un objectif pour
les Toulousains dans cette saison. Pour le coup, les Niçois, leur objectif c'est d'essayer de pas se redonner de frayeur en Ligue 1. Ils ont un quart de finale de Coupe de la Ligue qu'ils vont jouer très rapidement, il me semble que c'est même la semaine prochaine, contre Monaco. Ouais. Donc ils peuvent se retrouver simplement à deux matchs en cas de qualification d'un ticket européen, et par rapport à la dynamique de ce club et à sa gestion, ils ont intérêt à vite retrouver la scène européenne et la Coupe de France à l'extérieur contre un adversaire de Ligue 1. Donc effectivement, deux matchs avec deux cylindrées de Ligue 1, un match avec deux cylindrées de Ligue 1, ça a pas donné quelque chose de bien intéressant. La faute aussi aux Niçois.
Ouais. Encore fallait-il en sortir pour les Toulousains.
Je mets sans Balotelli.
Supporter du TFC est avec nous dans l'after. Salut Younes.
Bonsoir à tous. Oh, bonne salut. Année, meilleurs vœux.
Merci. On sait que côté Toulousain, les coupes, c'est pas toujours des très bonnes copines. Pour le coup, là, ça commence bien cette année.
Oui, bon, ça commence bien. Oui, il vaut mieux recevoir une Ligue 1 qu'aller se déplacer chez une DHR dans un terrain pourri. Maintenant, c'est un match de reprise, encore le foie gras dans le ventre, c'était pas facile. Mais bon, de toute façon, c'est pas génial depuis le début de la saison, donc on s'attendait pas à avoir quelque chose de
t'es
fantastique.
Gentil quand tu dis ça, Younes, hein.
Pourquoi?
De dire c'est pas génial, t'es gentil, je trouve.
Oui, voilà, bon, voilà, c'est la nouvelle année, je vais essayer de prendre des bonnes résolutions et essayer de moins critiquer le TFC. Mais il faudrait qu'il me fasse mentir, quoi, voilà. Donc, non, pas. Plus honnêtement, on avait quasiment l'équipe type, content qu'il y ait Durmaz qui revienne. Par contre, moi, Andy Delors, je comprends pas. Il joue à l'envers, ce mec. Bon, je suppose que vous avez pas vu le match. Si François a dû voir le match, désolé François d'ailleurs pour la défaite niçoise.
Pas de mal.
Mais non, franchement, Andy Delors, là, c'est plus possible. J'ai entendu qu'il y avait deux clubs français qui étaient dessus. Ben, il n'y a pas de problème, allez-y. Allez-y, prenez-le, parce que le mec, il joue à l'envers. Quand il doit la donner, il la donne pas. Quand il doit la garder, il doit tirer, ben, il fait la passe. Un contrôle, il n'a pas réussi un contrôle du match. Un contrôle, c'est la base du football, quoi. C'est incroyable. Mais bon.
Yes. Ouais. Tu sais, moi, ce qui m'a le plus choqué dans le match-là, c'est que, en général, même s'il est pas brillant, c'est que, au moins, je trouve qu'il arrive toujours à un peu emmerder la charnière adverse. Tu vois,
oui,
à peser, aller au,
oui,
là, mais même pas, on aurait dû un agneau. Et, c'est dans la continuité, en fait, depuis qu'il est parti à Caen. Avec les Tigresses, je l'avais vu pas mal de fois, il était vraiment, mais en dessous de tout. Et là, franchement, j'ai du mal à reconnaître le joueur qui nous avait autant enthousiasmé.
Tu sais, Jonathan, le mec, s'il sait pas, il arrive pas à contrôler un ballon, il joue à l'inverse, c'est-à-dire il fait pas les bonnes, il donne pas le ballon quand il faut, etc. Si en plus de ça, il est pas agressif sur les défenseurs, il les gêne pas, bah il sert vraiment plus à rien là.
C'était son but, c'était sa qualité principale, je trouvais.
Ouais, c'est le minimum d'aller gêner les défenseurs, quoi. Mais bon, franchement, franchement, j'aurais préféré de parler de MMA avec toi que de parler du TFC ce soir, tu vois. Donc,
malheureusement, on est dans une émission de football. Enfin, malheureusement ou heureusement.
Non, heureusement. Bah, ma passion reste quand même le football. Mais allez, un tour est passé. Après, on verra. Maintenant, ouais, on a un match de Coupe de la Ligue à jouer à Rennes. J'espère que ça va bien se passer. Et après, on verra le tirage de la Coupe. En général, on tombe contre le PSG, nous, chaque année. Donc, bon.
C'est vrai.
Bon. Merci Younes, supporter du TFC. Bonne saison à toi. Juste pour info, Lille va aller jouer à Caen. Voilà, puisqu'on se posait la question lors de la 20e journée.
Merci, monsieur.
De Ligue 1. Tiens, on a d'autres.
Ils sont renforcés en plus, Caen, là.
Au Mercato?
Ouais, ils ont pris, comment il s'appelle? Magidouaris, c'est ça?
Attends, je vais vérifier.
Magidouaris de Lorient.
Ça a échappé à mes radars. Izer Monaco, qualification monégasque, 5-2 sur le terrain de Izer. Pourquoi tu souffles? Pourquoi tu pouffes?
Parce que le match était encore une fois, c'était...
Mais tu vas pouvoir le dire de chaque match.
Non, mais c'est pas tout le temps le cas.
Les matchs avec des petites équipes, on fait pas l'after.
On fait l'after, on dit que le niveau est
Moi, je vais parler de ce match. Voilà, Cario, il a mis tout le monde d'accord, il a mis un trick. Mais surtout, il a eu la bonne idée d'ouvrir le score à la première minute. Et quand tu es l'équipe supérieure face à une équipe vraiment, vraiment plus faible, là, tu leur compliques complètement la vie. Et c'est ce qui s'est vérifié, même si après, Izer n'a pas démérité. Mais voilà, la classe d'écart, elle s'est vérifiée en long, large et en travers.
Il y avait deux partout à la mi-temps, mais c'est vrai qu'on...
Mais à un moment donné, dès qu'ils accélèrent, tu sens que les autres, ils tiennent pas la distance. C'est normal.
Bon après,
ils les embêtent
parce que je pense que Monaco
et
aussi.
Fabinho Endoram,
tu sais, ça va dans l'autre sens. Tu sais, ça va dans l'autre sens. Quand t'es l'agro cylindré, que tu commences à mener face à des entre guillemets, sauf le respect que j'ai pour Izer, des touristes, tu commences aussi un peu à te relâcher. Tu laisses revenir les morts de faim et c'est ce qui s'est vérifié.
Et en tout cas, donc, victoire 5-2 des Monégasques, qu'ils n'avaient pas l'équipe type.
Et Cario est en forme
Cario,
en cette fin d'année, et début d'année.
On peut saluer
fin
le triplé, parce que c'est vrai qu'il, plus ça va, plus il marque, et il confirme qu'il faut aussi compter sur lui, alors qu'il était quand même très très critiqué.
Moi, j'ai jamais changé d'avis sur lui. Je pense que c'est un joueur qui peut mettre une dizaine, douzaine de buts par saison, mais dans un système particulier, avec des latéraux qui centrent, avec des ballons dans la surface. Il va jamais participer au jeu. Alex Sujantes, il était bon, hein, c'était sa force, c'était que à chaque fois il était dans la boîte toujours au bon moment. Mais il faut que le jeu soit fait pour lui, que le système soit fait autour de lui. Donc c'est un peu restrictif, mais ça reste un bon avançant dans ce genre de
c'est
profil.
C'est même pas un presque entre guillemets un fox in the box, parce que c'est vraiment un joueur aérien, ouais. Il a le physique pour, très très bon de la tête, il pèse sur les défenses
là,
au niveau
s'est levé,
physique.
Là, à chaque fois là pour mettre ses têtes.
Après, balle au pied dans son sens du but. Il est bon, mais il est pas extraordinaire.
Mais c'est pas... Non, moi, ce qui m'a un peu agacé en regardant ce match-là, c'est que ils marquent tôt, comme tu l'as dit, et ils doivent pas se faire peur comme ça. À la mi-temps, ça doit jamais arriver à 2-2. Et Endoram, à chaque fois que je l'ai vu, j'ai eu quelques doutes. Mais c'est Fabinho aussi. Le milieu de terrain, je trouve qu'ils ont pris l'eau vraiment par séquence en première mi-temps. Évidemment, c'est pas une question de qualité, hein, parce que Fabinho, ça reste un joueur de classe européenne. Mais quand tu vois ça, quand tu vois le manque d'implication, quand tu vois le manque de considération pour le match, c'est ça qui me chagrine. C'est qu'en fait, c'est un manque de respect pour la compétition.
Les mecs, ils veulent pas se donner tout le temps.
C'est un manque de respect pour
la
compétition.
Et en plus, Monaco a un drôle de souvenir.
Il y a un petit détail quand même. Il y a un petit détail.
La blessure de Falcao il y a 2 ans ou 3 ans déjà maintenant. On est en 2018. Les croisés contre une équipe amateur en 32e de finale de Coupe de France.
Juste avant la Coupe du Monde.
2014.
Juste avant la Coupe du Monde.
Il y a un petit détail quand même qui t'échappe, Jonathan, c'est que le terrain là aussi, excuse-moi, était loin d'être digne des conditions d'un terrain professionnel. Mais c'est ce qui fait aussi, encore une fois, le charme de la Coupe. Allez, merci messieurs, enfin merci, je vous remercie pour l'instant parce qu'on va continuer bien évidemment dans un instant l'after sur RMC et BFM Sport. On va aller en Espagne, tiens, retrouver Fred Hermel, parce qu'il y a plein de choses à dire aujourd'hui sur la journée de foot espagnol, sur le marché des transferts également en Espagne. Vous savez que Coutinho, c'est officiel au Barça. Voilà, on va en parler avec Fred Hermel. A tout de suite dans l'after sur RMC et BFM Sport.
RMC, le super football show. L'afterfoot, Arnaud Souk.
L'afterfoot jusqu'à minuit sur RMC en simultané sur BFM Sport ou sur rmcsport.fr. Vous cliquez sur l'after, vous avez le son et l'image. François Malardeau et Jonathan Macardy sont à mes côtés. On a longuement parlé des 32e de finale de la Coupe de France qui continue demain avec plein de belles affiches. Il y aura notamment ce match entre Rennes et le Paris Saint-Germain à vivre dès 21h sur RMC. On va aller en Espagne. Tiens, retrouver Fred Armel. Salut Fred.
Hola chicos.
Ciao mon Fredo.
Salut les amis.
Feliz año nuevo.
Bah oui, feliz año à mon ami François Manardo que je n'ai pas encore eu l'occasion d'avoir à l'antenne. Et puis je vais te dire que je suis particulièrement content que tu sois là ce soir.
Merci mon Fredo.
Tu sais
moi je suis content de t'écouter.
Non, mais parce que toi t'as bossé dans les instances tout ça, donc tu comprends comment fonctionne le fair play financier. Ouais. Donc on va quand même expliquer ce soir pourquoi. Alors, le Barça n'aura aucun problème sur le sujet qu'on va évoquer tout de suite, l'arrivée de Coutinho.
Alors justement, transfert aujourd'hui officialisé par le Barça de Coutinho, le Brésilien de Liverpool, donc au Barça, pour 160 millions d'euros. Dis-nous en plus, Fred.
Alors c'est 120 plus 40 millions en objectif, suivant les, bon, comme toujours avec les titres, les buts, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Il y a plein de petites clauses à ce niveau-là. Il va signer dans les prochaines heures pour 5 ans avec le Barça. Il sera présenté lundi au Camp Nou, à la presse et au public. Donc voilà, du classique. C'est un beaucoup quand même, hein. Faut quand même reconnaître que les dirigeants du Barça qui avaient eu du mal l'été dernier, hein, départ de Neymar, ils avaient vraiment essayé de faire Coutinho, rappelez-vous, avait essayé de se rebeller contre Liverpool. Liverpool avait bien tenu le coup. Et là, bon, ben, face au désir absolu du joueur de rejoindre le grand Barça, voilà, et puis face à l'argent qui était proposé aussi, eh ben il est devenu joueur du Barça. Alors il pourra pas jouer avec des champions, bien entendu, puisqu'il a disputé avec Liverpool, mais c'est une excellente recrue. Et voilà, on aura l'occasion d'en discuter, mais voilà, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour Dembélé, même si le Barça a mis beaucoup d'argent sur Dembélé, même s'il faudra qu'il joue. Bah, je pense que voilà, Coutinho est un joueur de 27 ans qui est prêt pour le service tout de suite. Voilà, donc ça va être voilà, c'est de nouveau c'est un autre obstacle pour Ousmane Dembélé. Alors vous aimez bien, vous savez, tout le monde dit oui, mais il va remplacer Iniesta. Alors je peux vous dire que le mec qui va remplacer Iniesta cette saison,
il est pas né
parce que les mecs voient pas les matchs. Et puis Coutinho a beaucoup joué à gauche. Hein, cette année à Liverpool, hein, très offensif, quoi. Donc oui, il peut faire une concurrence énorme à Dembélé. Puis aussi parce que dans un système, même avec Coutinho au milieu, ça veut dire que
il peut jouer dans l'axe aussi.
Ouais, il peut jouer dans l'axe. Non, mais s'il joue au milieu, dans le milieu à 4, ça veut dire que l'entraîneur Valverde continue avec son 4-4-2. Et devant, c'est Messi et Suarez. Donc ça va pas être évident pour Dembélé. Enfin, on aura l'occasion d'en discuter.
Mais comme tu l'as dit, Fred, Dembélé, de toute manière, c'est pas cette saison-là qu'on pourra le juger. Voilà. Donc, je vois pas où est le problème là-dessus, quoi.
Voilà, donc il faut. Mais bon, voilà, ça veut dire que le chemin va être encore un petit peu plus long pour Dembélé. Non, très belle recrue pour. Après, on ne sait jamais comment ça peut marcher. Hein. Le football anglais, c'est pas le football espagnol. Mais bon,
il y a. Tu le vois jouer où dans le système de Valverde?
On ne sait pas parce que le système a changé.
Est-ce qu'il peut jouer en 4-4-2 sur un côté avec Iniesta d'un côté et lui, même si c'est pas son poste, jouer d'un autre côté?
Oui, et puis Busquets et Rakitic dans l'axe.
Ils peuvent jouer dans un 4-4-2 en losange avec Iniesta toujours en relayeur et puis avec en pointe de Coutinho et devant Messi Suarez, ça offre plein de possibilités.
Ça offre plein de possibilités.
C'était le profil qui leur manquait.
Voilà, exactement. Donc c'est une très bonne nouvelle pour le Barça. Et puis on va, voilà, moi j'ai vu des trucs et hallucinants sur les réseaux sociaux, des gens qui m'ont écrit en disant fair play financier, tout ça. Oh. Mais non, mais on va expliquer une chose. Alors, vraiment, je vous demande de me croire parce que c'est quand même. C'est pas si compliqué à comprendre.
On te croit toujours, Fred.
Le Barça avait un risque de problème avec le fair play financier pour une seule raison. Pour le pourcentage, pour le montant des salaires par rapport au
la masse salariale.
Pour la masse salariale par rapport au budget total du club. Ils ont réglé ce
au
problème.
Au revenu, plus précisément.
par rapport, non, par rapport au budget, oui, par rapport aux revenus, par rapport au budget, mais le budget, il est basé sur les revenus, donc voilà. Enfin bref, c'est-à-dire que c'est pas, c'est, tu as un budget et ta masse salariale, je crois qu'elle doit pas dépasser 60%
exactement.
De ton budget total. Le Barça était à la limite, sauf que cet été, je pense que vous avez su peut-être hein, que il y a un mec qui leur coûtait plus de 40 millions parce que en Espagne, c'est quand tu payes 20, tu en net, c'est 20 en brut, hein, donc ils ont délesté 40 millions avec le départ de Neymar. Donc ils sont revenus dans les clous. Ils sont plus à la limite au niveau du fair play financier. Et pour ce qui est du fair play financier, de l'argent qui est dépensé, le Barça ne peut pas. C'est impossible qu'il soit en dehors des clous pour une raison très simple. C'est que les statuts mêmes du Barça l'empêchent. Puisque le Barça est une association, loi 1901, un but lucratif, qui n'a pas de propriétaires, plutôt des propriétaires qui sont les socios, les membres associés qui payent leurs cotisations tous les ans, et il n'y a pas d'actionnaires. Donc, il n'y a personne, de par les statuts du Barça même, c'est pareil pour le Real, c'est pareil pour l'Athletic Bilbao, personne ne peut amener de l'argent. Il n'y a pas d'actionnaire qui peut amener de l'argent s'il n'y a pas d'actionnaire. Donc le Barça comme le Real et Bilbao sont contraints de créer eux-mêmes leur argent. Donc ils ne peuvent pas dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas puisqu'ils le créent eux-mêmes. Voilà, donc c'est. J'espère que j'ai été clair. Donc le seul problème que peut avoir le Barça au niveau du fair play financier, c'était la masse salariale. Et là, le départ de Neymar a empêché toute complication à ce niveau-là. Et j'espère que vous allez me confirmer, notamment mon ami François qui connaît ça.
François,
ce que demande l'UEFA depuis pas mal de saisons, et il faut rappeler une chose, c'est que l'UEFA, le fair play financier, elle l'a pas inventé tout seul. C'est qu'elle a invité les grands clubs européens, dont Barcelone, à se réunir autour d'une table pour que les clubs eux-mêmes édictent les règles de ce fair play financier. Donc ils les ont validées, ok, mais ils les ont aussi préparées, rédigées en quelque sorte avec l'accord de l'UEFA. C'est que elle te demande d'avoir du cash flow, c'est d'avoir des provisions pour que au cas où tu puisses être embêté avant d'être sanctionné, hein, tu puisses être un petit peu dans l'orange et t'approcher du rouge, et bien que tu fasses la démonstration que tu as suffisamment de potentialité de revenus, ce qui est évidemment pas un problème pour un club comme le Barça.
Mais de revenus propres, c'est-à-dire pas qu'il
n'y a évidemment pas de revenus propres. Ouais. Non, voilà, on parle évidemment de revenus propres.
Le marketing, ouais. Ouais, ça, voilà.
Oui, oui, et on parle évidemment de revenus propres. Et à ce moment-là, une fois qu'un club en Europe fait la démonstration à l'UEFA qu'il a ce cash flow, il repasse dans le vert.
Voilà. Donc c'est pour ça. Et donc le Barça n'aura aucun problème. Vite résumé,
hein.
Et le Barça veut encore claquer 100 millions au mois de janvier, il le peut puisqu'il a les revenus, puisqu'il les génère, ces revenus. Le problème du fair play financier, ce sont pour les clubs qui ne génèrent pas de revenus et dont le revenu arrive, comme par hasard, d'un coup, un actionnaire qui met l'argent sur la table.
Par du sponsoring artificiellement.
Artificiellement, bien sûr.
Ouais, dans le cas du PSG, c'est l'Office du tourisme qatari. Exactement. Pour sponsoriser le maillot du Paris, enfin, sponsoriser le PSG.
Voilà, exactement. Donc j'espère qu'on va arrêter.
Parce que là, on avait une question de conflit d'intérêts.
Exactement.
Ok, messieurs, juste pour terminer avec le mercato du jour. Vous savez que Mitrovic a été recalé à la visite médicale à l'AS Saint-Etienne. Voilà, donc il devait venir renforcer les rangs stéphanois, le défenseur serbe de la Gantoise en Belgique. Sauf que voilà, il y a eu des petits soucis médicaux qui ont été décelés à la visite médicale. En fait, il est concrètement apte à jouer, mais en prenant des risques pour son physique et en prenant de gros risques de se blesser. C'est pour ça que Saint-Etienne finalement a préféré, après visite médicale, ne pas le faire venir. Fred, tu restes avec nous, évidemment, parce que on continue à parler également de l'Espagne. Ce match ce soir, derby complètement fou entre le FC Séville et le Betis Séville à Sanchez-Pirouane. 5-3 pour le Betis, on s'est régalé.
À l'extérieur. Jamais dans l'histoire d'un derby au Sanchez-Pirouane, le Betis n'avait marqué 5 buts. Vous imaginez la claque pour Montella qui vient d'arriver.
Fred, je peux te couper juste un instant? Oui. Quand tu dis jamais, il faut rappeler que c'est un des plus vieux derbys de l'histoire du foot. Le premier derby, c'est 1909.
Et c'est le plus beau d'Espagne. C'est le plus beau d'Espagne pour une raison très simple, c'est que tu y vas souvent, François, c'est l'Andalousie, tout est exagéré, tout est plus rigolo, tout est plus coloré, tout est plus excessif en Andalousie. Donc c'est
complètement. Voilà,
mais c'était un match à l'image de ces gens, quoi. C'était extraordinaire. C'est-à-dire que ça pouvait terminer 5-3 et ça finit 3-5. Voilà, c'est un match hors contexte entre un Séville qui est quand même qualifié pour les huitièmes de finale des champions et un Betis qui est pas très en forme et qui avant ce match était 14e de la Liga. Ouais, sauf qu'un derby, ça se sort du contexte. Et vous savez, moi je la ramène souvent avec ma Liga Española et tout, mais il y a une qualité première de ce championnat, c'est que les affiches, 90% du temps, elles tiennent leurs promesses. Vous regardez, hein, enfin, vous regardez les matchs, et là, c'était une affiche, et là, tenu ses promesses, c'est parti dans tous les sens. Voilà, l'anglais et Corchon ont passé l'anglais qui a d'ailleurs marqué,
marqué un des buts de Séville, oui.
Ouais, il a marqué, enfin, l'anglais et Corchon, pour parler de français, ont eu une soirée un peu compliquée. Nzonzi, qui était récupéré pour la cause par Montella, qui allait partir, est loin de son niveau. Il y a du boulot, quoi. Donc, mais c'était un super match, quoi. Donc, moi, j'adore ce genre de.
Nzonzi, il est un peu en baisse de forme, mais je trouve toujours que quand Séville mène, tu le vois plus, mais quand Séville doit rattraper le retard, il n'accélère pas le jeu.
Ce qui était surtout flagrant, c'est qu'ils ont changé d'entraîneur dans les circonstances qu'on connaît. Mais là, j'ai vu la même composition d'équipe, j'ai vu exactement les mêmes changements, la même tactique, j'ai vu exactement la même chose. Et je vois pas quel était l'intérêt de faire venir Vincenzo Montella, que j'aime beaucoup comme entraîneur. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir lui laisser quand même un petit peu beaucoup de temps. Enfin, un petit peu beaucoup, c'est bizarre comme
raison. Il est arrivé il y a trois jours.
Mais il y a quand même du boulot. L'équipe a pas gagné depuis c'est quand début décembre, la dernière victoire, la 14e journée, c'est ça.
Non, mais après, ils sont quand même en 8e de finale des champions, ils sont quand même 4e, maintenant ils sont 5e du championnat.
Voilà. C'est une équipe avec des joueurs de qualité. Ouais. Quand tu regardes, il y a de la qualité à toutes les lignes, hein, derrière, au milieu, Banega, devant.
Il y a encore marqué,
devant,
hein. Mais Deschamps, coucou. Comment? Il y a encore marqué.
Ouais, ouais. C'est une équipe qui est en manque de confiance totale. T'as l'impression que les joueurs sont tous perdus. Ils étaient perdus avec Berizzo sur la fin. Ils sont toujours perdus sous Montella maintenant. Il va falloir quand même un petit peu de temps pour que ça s'arrange.
Tu parlais des circonstances spéciales. Vous vous rappelez, c'est que Berizzo est opéré d'un cancer de la prostate et que les 10 jours après, il a été viré, quoi. Donc, le timing n'était pas très classe de la part des dirigeants de Séville. Donc, Montella, il va devoir aussi, alors c'est pas de sa faute, quoi, dépasser le contexte, en disant, il vient faire quoi, cet intrus, alors que, voilà.
C'est un peu ça.
Berizzo, c'est un mec qui était très aimé ici, donc, il y a pas mal, il y a un gros chantier pour
Dans le vestiaire, les joueurs le suivaient, hein.
Oui, alors pas tous, hein.
Pas tous, mais il y avait quand même les cadres, entre guillemets, le suivaient.
Bon, après, les joueurs, Berizzo est parti, ils essaient de jouer, ils auraient pu gagner ce soir. Parce que, en fait, le Séville a mieux joué. Séville a eu beaucoup plus d'occasions. Mais le Betis en contre a été fabuleux, quoi. Donc, et Sergio Rico, le gardien, montre petite baisse, hein, le gardien de Séville,
qui a été extrêmement maladroit dans ses gestes défensifs aussi, j'ai trouvé.
Mais offensivement, le Danois était très bon.
Offensivement, oui, bien sûr, mais défensivement, je trouverais vraiment ce soir, j'ai trouvé particulièrement à la limite.
Tiens, Fred, un petit mot également de Valence-Gérone. Les Valenciens qui s'imposent 2-1, notamment Gonzalo Guedes a pas été mauvais.
Non, il était bon. Et on se souvient qu'il a été blessé, donc il revenait. Voilà, Valence est là. Hein. Valence va se battre jusqu'au bout. C'est une belle équipe. Marcelino, lui aussi, il revenait après un grave accident de voiture pendant les fêtes de Noël. Donc on était quand même content. On était content de le revoir sur le banc. Puis un petit mot. Je ferai mon avis tranché sur lui lundi, hein. Diego Costa. Voilà. Diego Costa, l'Atlético, qui a gagné 2-0 aujourd'hui face à Retafe. L'Atlético qui est deuxième de la Liga, à 6 points du Barça, qui va jouer demain contre l'Evante au Camp Nou. Et Diego Costa. Alors, si on se demandait si Costa était toujours le même, la réponse est oui, hein. Alors, je sais pas si vous avez vu ce match.
Le
match de l'Atlético contre Diego Costa, il met un coup de coude, il prend un adversaire, on voit comment il se bat tout le temps, il prend un jaune, il met un but et après il va célébrer le but dans les tribunes avec les supporters, donc logiquement il prend un jaune et il est expulsé. C'est tout Costa. L'ange et le démon, voilà. Et je peux vous dire qu'il va faire un bien fabuleux à cette équipe de l'Atlético.
C'est surtout l'entente avec Griezmann
qui est pas mal. Mais on sent déjà que c'est naturel entre eux. Parce que Griezmann, il a besoin de quoi? Il a besoin d'un mec devant qui se batte entre les deux défenseurs centraux, qui fixe les défenseurs. Et puis après, t'as Griezmann qui arrive comme une fleur pour pouvoir marquer ou construire le jeu, quoi. Non, mais c'est vraiment dommage, j'insiste, que l'Atlético soit pas en Ligue des Champions
parce que Costa permet à Griezmann, surtout, c'est de prendre les espaces entre les deux centraux et le numéro 6, et c'est là où il est le meilleur, Griezmann. C'est quand il arrive à se positionner comme ça, être un peu fuyant, difficile à marquer, et Costa surtout, il pèse tellement sur les deux centraux.
Surtout que il fait, Costa fait le boulot que n'aime pas faire Griezmann, c'est-à-dire être tout seul en pointe et de se battre avec les défenseurs centraux, voilà, c'est tout. Et là, c'est vrai que pour ça, c'est une liberté fabuleuse pour Griezmann. Donc on sait que Griezmann va quitter l'Atlético au mois de juin, mais il va passer que 5 mois de plaisir avec ce grand joueur qui est Diego Costa, avec un esprit compliqué, voilà, parce que Costa t'achète tout. hein. T'achètes le super joueur, mais t'achètes celui aussi qui se prend des cartons rouges parce qu'il est comme ça, il peut pas s'empêcher.
Ouais. Dis-moi à propos de Mercato et de l'Atletico, du coup, notre ami Vitolo, puisqu'on parlait de Séville juste avant, et puis notre ami français Gamero, ils peuvent espérer quoi là dans les mois à venir?
Ah bah Vitolo va jouer.
Il joue, mais on parle de Costa, on parle de Griezmann.
Ouais, mais Gamero, non, mais Vitolo va jouer, c'est sûr.
Gamero,
je
vois pas.
Moi, je pense que l'avenir, aujourd'hui, le mec qui est sur la sellette, c'est plutôt Carrasco.
Je parle de transfert, moi.
Ouais, non,
bah, il y a Gaëtan qui essaie de retourner à Boca aussi.
Voilà. Et t'as Vieto qui a été transféré il y a deux jours
à Valence.
Gamero va se battre. Donc, il va se battre pour rester.
Donc, toi, tu le vois rester.
Moi, ça lui a du sens. Vieto parti, Gaëtan qui essaie de retourner en Argentine, ça lui laisse quand même.
Carrasco qui, avec son attitude, je suis pas sûr qu'il reste très longtemps. Parce que je pense qu'à un certain moment, il va énerver l'ami Simeone. Donc, finalement, il y a peut-être une petite fenêtre, une petite chance qu'il reste ici, Kevin Gamero.
Merci, Fred Armel.
Ah bah on a tout dit là.
Très bonne soirée.
Salut
à toi.
Fred.
Belle page.
Effectivement.
Allez, Fred.
Une belle page espagnole. Hein. Je vous renvoie vers le site rmcsport.fr pour tous les résultats des 32e de finale de la Coupe de France qui sont joués aujourd'hui. Les 32e de finale qui continuent demain avec de belles affiches, notamment Rennes PSG. Ce sera à 21h à suivre sur RMC. Évidemment, bonne soirée Jonathan, bonne soirée François.
Déjà ?
Et bonne soirée à tous.
Ouais, c'est fini, hein.
Et ça revient demain.
On était excité ce soir.
RMC, le Super Football Show, l'After Foot.